Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
C'est un des procès les plus marquants et des plus connus de l'histoire. 22 accusés, 4 juges et surtout un moment charnière, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ici Martin Labrosse, à Aujourd'hui l'Histoire, le procès de Nuremberg.
Monsieur le Président, messieurs les juges, la conscience des peuples, hier, asservie et torturée dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps.
C'est le 20 novembre 1945 que s'est ouvert le procès. Les 4 pays alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la France, participeront activement à l'exercice. Pour y arriver, les pays ont dû concilier les systèmes de justice européens et anglo-américains. Les pays alliés, qui préparent ce procès depuis quelques années déjà, avant la fin de la guerre, sont prêts à tout pour juger les responsables nazis afin d'avoir un sentiment de justice après des années d'atrocité et de terreur.
Journée où d'année en année se répétaient les rites hallucinants et sauvages du culte d'Hitler, les rues pavoisées et le bruit des bottes, les océans de drapeaux et le chant des hymnes. Le stade, plein à craquer d'une foule hystérique, et dans la nuit éclatante de l'heure, les promesses et les menaces d'un somnambule ivre de son délire. Et puis, un jour est venu où dans le stade vide, terriblement silencieux, au milieu d'une Allemagne épouvantablement silencieuse, le nazisme s'est écroulé.
Un extrait du film Nuremberg de l'Institut national de l'audiovisuel français, un film qui remonte à 1947. Pour mieux comprendre ce procès, j'accueille Rosalie Racine. Elle est chargée de cours au département d'histoire de l'Université de Montréal, également doctorante en histoire à cette même université. Madame Racine, bonjour.
Bonjour.
On va remonter au début du procès de Nuremberg, mais même avant ça, parce que oui, le procès s'est ouvert en 1945, mais on y avait déjà pensé quelques années auparavant.
Oui, oui, c'est vraiment un processus. En fait, 45, c'est la fin d'un long processus, là, si on veut, qui commence, je dirais même, après la Première Guerre mondiale, où on met déjà en place des règlements, des lois, des traités, des ententes pour plus qu'on connaisse cette terreur-là qui était la Première Guerre mondiale. Donc, internationalement, on va mettre en place des ententes, des traités. La Société des Nations, par exemple, dont l'objectif était vraiment de conserver la paix en Europe. On va penser, par exemple, en 1928, le traité de Briand-Kellogg, qui vient rendre la guerre illégale. On s'entend pour dire que la guerre ne sera plus une façon de régler nos conflits. On veut opter pour la voie diplomatique. On peut penser aux conventions de Genève de 1929 aussi, qui vient protéger les droits des prisonniers de guerre, garantir que ces gens-là seront bien traités par les armées ennemies. Mais le problème avec toutes ces instances-là, toutes ces lois-là, c'est qu'il n'y a aucune conséquence qui est prévue dans le texte de ces ententes-là, de ces traités-là. Donc, tous les signataires sont tenus par principe de les respecter, mais on n'a aucune conséquence juridique, légale, politique qui sont prévues si on contrevient aux ententes qu'on a signées. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est à partir de 1942, donc c'est quand même rapidement après le début de la guerre, le 13 janvier 1942, donc il y a 9 gouvernements des pays occupés par l'Allemagne nazie qui sont en exil en Grande-Bretagne, qui vont s'entendre avec les 4 puissances alliées pour émettre ce qu'on appelle la Déclaration Saint-James. Et dans cette déclaration-là, en fait, on va indiquer déjà que le châtiment des criminels de guerre nazis fait partie officiellement de nos objectifs de guerre. Donc, dès 1942, c'est officiel, on a ça comme but. Si on gagne la guerre, c'est automatique. On va mettre en place.
Il va y avoir des procès qui vont
suivre. Exactement. On a une réponse judiciaire qui attend les gens qui commettent ces atrocités-là depuis déjà le 1939.
Donc, on le disait tout à l'heure, le procès s'ouvre en novembre 1945. Ouais. Donc, c'est très, très rapidement après la fin de la guerre. On n'a pas tardé là, à amener ces gens-là devant un tribunal, devant une mm-hmm. cour. Pourquoi on a choisi Nuremberg pour tenir ce procès-là?
Ouais. Nuremberg, c'est d'abord pour une question pratique. Les Alliés ont bombardé énormément l'Allemagne vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça prenait une place qui était encore debout, qui était suffisamment grande pour accueillir l'énorme équipe juridique qui allait composer les quatre puissances, les accusés, tout le public aussi, parce que les Allemands vont être invités à assister à ce procès-là. Donc, ça prend une place qui est assez grande pour accueillir tous ces gens-là. Et aussi parce que Nuremberg est quand même un symbole important pour le régime nazi. C'est là où on faisait toutes les grandes parades, c'est là où tous les grands rassemblements nazis, toutes les images d'archives, les vidéos mm-hmm. d'archives, souvent c'est à Nuremberg que ça se passe. C'est là où on va émettre aussi en 1935 les lois de Nuremberg qui viennent un peu circonscrire qui était juif, donc qui sera persécuté davantage à partir de 1935. Donc il y a une grande symbolique qui est associée à cette ville-là aussi.
Le procès s'ouvre donc le 20 novembre. On va écouter ensemble un extrait d'un reportage de 1945 où, justement, on entend quelques-uns des accusés.
Le 20 novembre, on commence à Nuremberg le procès des 20 principaux chefs nazis qui survivent. Dans l'enregistrement que vous entendrez, vous percevrez les voix de Göring, Hess et Ribbentrop qui nient leur culpabilité au chef d'accusation que leur lit le principal juge.
Hermann Wilhelm Göring. The Kennemissions in the Empire in this treaty. Rudolf Hess.
Nein.
Joachim von Ribbentrop. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Je le disais en introduction, pour arriver à pouvoir tenir ce procès-là, en termes de procédure, on a dû être créatif à quelque part.
Oui, bien, c'est déjà même dès août 1945, on se rend compte que les quatre puissances alliées, on n'a pas vraiment le même système judiciaire qui est mis en place. Donc, on doit trouver une façon de concilier ces quatre systèmes-là. On va prendre, par exemple, l'idée que le procès n'est pas une finalité, mais bien un processus du côté américain. Donc, les Britanniques ne sont pas habitués à ce genre de procédure-là, mais on va conserver ce processus juridique-là pour le procès de Nuremberg. En France, en Union soviétique, c'est pas le même fardeau de la preuve qui est priorisé normalement mm-hmm. dans ces systèmes juridiques-là non plus. Donc, on va essayer de tout mettre ensemble, ce qui fait en sorte qu'on a un procès qui dure relativement longtemps, donc presque un an, où on a énormément de documents qui vont être présentés pour s'assurer que la preuve est assez accablante, est assez forte ouais. pour rendre ces accusés-là coupables, en fait, pour prouver
pour
leur responsabilité.
Leur culpabilité, ouais.
Exactement. Donc, c'est vraiment une espèce de mélange de ces différentes procédures-là qu'on va affirmer avec la Charte de Londres là, en août 1945.
Et pour représenter ces alliés-là, ouais. il y a un juge de chaque pays. Là.
Exactement. Chaque pays va nommer un juge avec un juge remplaçant si jamais le juge principal devait s'absenter. Ces juges-là sont tous des hommes qui ont une éducation, une formation en droit. C'est tous des hommes qui vont aussi avoir des rôles assez importants dans le système juridique de leur propre pays. On peut penser, il y en a beaucoup qui étaient, par exemple, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, juges dans la Cour suprême de leur pays, qui étaient commissaires de justice en France, par exemple. Donc, c'est tous des hommes qui avaient un parcours en droit. C'est tous des hommes qui s'étaient illustrés aussi déjà pendant la guerre, avant la guerre, dans des cas relatifs au droit international, aux droits humains. Donc, c'est des gens qui étaient déjà connus dans leur pays respectif pour leur capacité à interpréter, à mettre en place un droit, un système judiciaire là, qui se tenait.
Parlez-moi des accusés.
Ouais.
Parce que quand on lit sur le procès de Nuremberg, ouais. Le nombre, mm-hmm. le chiffre, le nombre d'accusés varie d'une source à l'autre.
Ouais.
On passe de 24 à 21, à 20, à 22.
Ouais.
qu'est-ce qui... Premièrement, quel est le vrai nombre?
Oui.
Et deuxièmement, pourquoi on arrive à des chiffres différents?
Bien, d'abord, c'est 24 personnes qui vont être identifiées par les puissances alliées pour comparaître devant Nuremberg. Puis l'objectif, c'est vraiment de représenter une grande variété de l'élite nazie. Donc, on ne veut pas seulement des élites politiques ou des élites militaires. C'est vraiment d'aller chercher l'ensemble du système nazi, les représentants de ce système-là. Donc, c'est 24 personnes qu'on va identifier d'abord. Évidemment, il va y avoir des problèmes avec ces 24 personnes-là. Il y en a un, Gustav Krupp, par exemple, qui était le seul représentant de l'industrie allemande, qui va être déclaré inapte à comparaître. Donc, on va le retirer de la liste des accusés. Il y a Robert Ley, qui était dirigeant du Front du travail allemand, qui, lui, va se suicider avant de pouvoir comparaître. Donc, il ne sera pas devant la cour non plus. Et on a Martin Bormann, qui était vraiment un proche d'Hitler, un peu un idéologue du parti nazi, qui, lui, en 1945, on a des rapports conflictuels à savoir est-ce qu'il est en vie ou est-ce qu'il est décédé. Donc, on va choisir, en fait, de le juger in absentia. Donc, malgré son absence, on va le laisser sur la liste des accusés, mais il ne sera pas devant le tribunal. Donc, on se retrouve avec 22 accusés finaux et 21 accusés devant le tribunal.
Physiquement présents.
Physiquement présents, exactement.
Quel genre de preuves on a présenté dans ce procès-là? Parce qu'on se dit, bon, à l'époque, il faut se replacer à l'époque aussi, le genre de preuves comme on a aujourd'hui, on ne l'a pas, en tout cas dans certains cas. Et quand même, la guerre venait de se terminer. Ouais. Donc, on a dû accumuler de la preuve quand même assez rapidement.
Oui, c'est ça. Dès 1943-1944, au niveau américain, au niveau britannique, il y a des institutions, des organisations qui se mettent en place au niveau des armées pour... conserver le plus de documents possible au fur et à mesure qu'on libère les territoires. Ce qui fait en sorte qu'il y a quand même une bonne documentation bureaucratique, administrative, à laquelle les Alliés vont avoir accès. On estime qu'il y a environ 100 000 documents conservés comme ça à la libération qui vont être consultés par les Alliés pour monter la preuve. Et c'est un 4 500, un peu moins de 5 000 documents qui vont être utilisés comme preuve par les Alliés. Une des nouveautés de Nuremberg aussi, c'est l'utilisation du film. Donc, à la libération des camps de concentration, les Américains surtout ont des vidéographes qui les suivent. Donc, on va prendre des images sur place de la libération des camps, des conséquences des camps de concentration qu'ont mis en place les nazis. Et c'est des films qu'on va présenter devant le tribunal. C'est des films qui vont intriguer beaucoup, notamment parce qu'on a accès à la réaction en direct des accusés qui, certains, n'avaient jamais quitté les bureaux nazis, n'avaient pas été voir dans les camps de concentration ce qui se passait. Donc, cette réaction-là, quand même viscérale, en direct, des accusés, ça va beaucoup faire jaser pendant le procès. On a des photos qui sont présentées aussi. Je dirais les plus absents, ce sont les survivants, survivantes, les témoins directs. Nuremberg va vraiment choisir de mettre le poids sur les documents tangibles qu'on ne peut pas questionnés, qui ont une certaine vérité.
Oui, c'est très factuel.
Très factuel, exactement. C'est difficile de les remettre en question et de questionner leur crédibilité, en fait.
Il y a quand même quelques témoins qui auront été entendus au cours de ce procès. L'un d'eux, c'est celui de Marie-Claude Vaillant-Couturier, une survivante d'un camp de concentration. Je vous invite à l'écouter.
Nous devions passer la porte une à une et on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu en passant pour la faire courir. Celles qui ne pouvaient pas courir, soit parce qu'elles étaient trop vieilles ou trop malades, étaient happées par un crochet et conduites au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Ce jour-là, 10 Françaises de notre transport ont été happées ainsi et conduite au bloc 25. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.
Un extrait tiré de nos archives qui date de 1945. Rosalie Racine, est-ce que les accusés dans ce procès-là ont présenté une défense?
Oui, c'était ça faisait partie des efforts des alliés de vraiment avoir un procès juste, équitable, de permettre aux accusés de se défendre. Donc, les accusés vont être représentés par l'avocat de leur choix ou un avocat qui a été nommé par le tribunal à leur demande. Donc, ils ont le contrôle vraiment sur la défense qu'ils vont mettre en place. Il n'y a aucun accusé qui va essayer de nier ce qui s'est passé. On se rend compte que, justement, la documentation, la preuve documentaire, elle est très, très forte, très accablante. Donc, on ne cherchera pas à nier ce qui s'est passé. On va principalement essayer de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. La principale cible de ce rejet de responsabilité-là, ça va être Adolf Hitler, qui était un des grands absents du procès là, du fait de son suicide à la fin du mois d'avril. Donc, on va essayer de rejeter la responsabilité des actions, des crimes qui ont été commis sur nos supérieurs, sur des gens qui ne peuvent pas venir se défendre. On va essayer de diminuer l'importance du rôle qu'on a eu aussi dans le processus pour dire c'était seulement minime ce que moi j'ai fait, j'avais pas vraiment la main dans ce dossier-là, par exemple. Donc, on va essayer vraiment de se distancer le plus possible pour essayer de diminuer la sentence là, qu'on pense recevoir.
Des 22 accusés, 21 qui sont présents devant le tribunal, combien d'entre eux auront été reconnus coupables au terme du procès?
C'est 19 des 21 qui vont être reconnus... Ben 19 des 22, en fait, là, qui vont être reconnus coupables. Là-dessus, il y en a 12 qui vont être condamnés à mort et le reste vont avoir là, différentes sentences de prison. La tendance qu'on remarque dans les condamnations à mort, surtout, c'est les gens qui ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Donc, les crimes contre les populations civiles, les crimes de discrimination sur des bases religieuses, raciales, politiques. Donc, les accusés qui sont reconnus coupables de ça, ce sont principalement ceux-là qui vont être condamnés à mort là, par le tribunal. Il y a 3 des accusés qui vont être acquittés du fait que souvent, ils étaient plus en marge du système nazi. On peut penser... par exemple, au chef de la presse, au chef de la radio allemande, qui avait été accusé de complot pour crime d'agression, ce genre de choses-là, mais qui va être reconnu comme non coupable des accusations.
Bon, le procès se termine, il y a ces peines qui sont imposées. Comment c'est reçu, ça, du côté des Allemands, d'abord, chez les Juifs, ensuite?
D'abord, chez les Juifs, la réaction est assez partagée. D'un côté, on est content qu'on ait une preuve physique de ce qu'on a vécu dans ces camps-là. C'est aussi pour eux une grande victoire, juste le fait que le nazisme ait été jugé en tant que système. Les Juifs ont été très actifs dans la mise en place des différentes accusations aussi. On peut penser au terme de génocide qu'on entend pour la première fois là, dans les accusations à Nuremberg, terme qui a été évoqué, défini par un avocat polonais juif déjà là, dès 1943. Donc, on est assez actifs de ce côté-là. Mais d'un autre côté, pour ceux qui ont été déportés en Allemagne, qui attendent de pouvoir retourner à la maison. On se demande vraiment si le tribunal de Nuremberg, c'est un outil efficace pour une justice, pour une plus grande égalité, pour une sécurité dans cette après-guerre-là. Du côté des Allemands, on ressent quand même un grand sentiment d'injustice du fait que, oui, l'Allemagne a commis des crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'est pas la seule à avoir commis des crimes pour la Deuxième Guerre mondiale. On peut penser à l'URSS, par exemple, qui a fait plusieurs meurtres de masse là, en Pologne. Pourquoi est-ce que l'URSS n'est pas jugée, par exemple, par ce même tribunal-là? Donc, on est relativement en accord quand même avec Nuremberg du fait que ce sont les grands criminels qui vont être jugés. Donc, la population, l'Allemand ordinaire ne se sent pas responsable de ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Mais c'est un soutien qui va diminuer avec les années de façon assez drastique du fait qu'on est un peu tanné d'en entendre parler là, dès 1947-1948.
Ce procès-là, dans quelle mesure est-ce qu'il est venu donner un élan ou a servi pour la suite du droit international?
D'abord, Nuremberg, c'est un des 13 procès qui vont avoir lieu à Nuremberg. Donc, il y a 12 procès subséquents qui vont avoir lieu. On peut penser au procès des médecins, souvent, qui est le plus connu, qui va donner ce qu'on appelle le code de Nuremberg, donc qui vient définir quels sont les critères acceptables pour les expérimentations sur des humains, par exemple. Donc, c'est toutes des petites règles comme ça qu'on va venir ajouter dans le droit international. En 1946, les Nations unies vont adopter la Charte de Nuremberg, les jugements de Nuremberg comme une législation internationale. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on va avoir le fondement du droit pénal international comme on le connaît aujourd'hui. Depuis Nuremberg aussi, en fait, en se basant sur Nuremberg, on a en 1948 l'adoption du crime de génocide dans le droit international, donc qui découle de ces définitions-là qu'on avait faites là, pour le procès de Nuremberg. On va ajouter d'autres crimes aussi à partir de ça. Et éventuellement, après là, de nombreuses décennies, ça va mener à la fondation là, de la Cour pénale internationale.
Justement, je vous invite à écouter un extrait de l'émission Sans frontières qui était sur nos ondes là, en 2002, où on va entendre l'ancien ministre français de la Justice, Robert Batinder, nous parler de la création justement de la Cour pénale internationale à La Haye.
C'est la première fois qu'est établi dans la communauté internationale un ensemble de nations qui décident de conjoindre leurs forces pour lutter contre les criminels, contre l'humanité, et qui se dote d'un système judiciaire complexe qui trouve son sens au sommet par la Cour pénale internationale. Donc à ce titre, c'est un grand progrès de la justice pénale internationale et un grand pas en avant dans la lutte contre l'impunité des criminels, contre l'humanité.
Alors, dites-moi, dans une perspective plus large, on a parlé de Nuremberg, là, mais il y a eu d'autres procès pour d'autres acteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça aussi, ça a servi au système de justice. Là.
Oui, exactement. On pense beaucoup à Nuremberg parce que ça a été tellement important, justement, dans le développement du droit international. C'est des accusés qui sont très forts, qui sont très connus. Mais c'est vraiment une partie du système judiciaire qui se met en place après la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, chaque puissance alliée va mettre dans sa zone d'occupation en place un système judiciaire qui va venir juger, condamner les gens qui travaillaient dans ces camps de concentration-là, qui étaient sur le terrain directement, qui ont commis la violence, les crimes contre les victimes. C'est des responsabilités qu'on va éventuellement transférer aux Allemands aussi. Donc, on va permettre aux Allemands de juger des Allemands. Il y a des cours de dénazification pour les gens qui travaillaient dans les bureaux, par exemple, qui vont aussi se mettre en place. Donc, Nuremberg reste au cœur de tout ça, du fait de son importance, du fait de son jugement de la machine nazie, si on peut le dire comme ça. Mais les hommes sur le terrain vont aussi être jugés par...
Mais par leur père, là.
Par leur père, éventuellement. D'abord, ça va être par les alliés,
par
donc les cours criminels alliés qui vont être mis en place. Puis éventuellement, avec l'arrivée de la guerre froide, par exemple, où là, on veut changer, on a besoin de se défaire de ces responsabilités-là, de cette association-là au châtiment des Allemands. On essaie de garder les Allemands dans notre camp pour la guerre froide. Donc, on va leur donner de plus en plus de responsabilités pour qu'éventuellement, ils soient capables de juger leur père sur le droit que les Alliés auront mis en place en Allemagne.
Et ultimement, ben, c'est un peu ce que réclamaient les Allemands, de pouvoir, eux, poser un jugement sur ces gens-là, non?
Oui, parce que une des grosses critiques de Nuremberg, ça a été justement que c'était une justice des vainqueurs. Mm-hmm. Donc, une espèce de procès-spectacle qui servait juste de prétexte ou de façade, en fait, de justice, de jugement. On aurait voulu pouvoir juger nos propres criminels de guerre et c'est ce qu'ils pourront faire, là, effectivement, éventuellement.
Rosalie Racine, je rappelle que vous êtes chargée de cours au département d'histoire de l'Université de Montréal, doctorante en histoire à cette même université. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui l'Histoire. Merci à toute l'équipe. À la recherche, Ariane Léonard et Renaud Menuguera-Gagné. À la recherche d'archives, Marianne Desbiens et Sophie-Hélène Gibson. Au site Internet, Ronald Georges. À la mise en onde, Pierre Dulon. Aujourd'hui, l'Histoire est réalisée par Jacqueline Castonguay. Ici Martin Labrosse. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.
Découvrez la programmation 24/25 de l'OSM.
assister au grandiose concert d'ouverture Les Gourlidaires de Schönberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.